Alors aujourd'hui, on a un sujet spécial, la prière de guérison. On va voir ce qu'en dit la Bible. Et puisqu'on va voir dans la Bible que nous sommes encouragés à prier pour la guérison, prier pour les malades, dans l'Église, on va donner des principes pratiques, des conseils. Et ce sont des choses qu'on pratique déjà. Et ça fait partie des coutumes, des croyances, des traditions de l'Alliance chrétienne et missionnaire et de l'Oasis. Nous sommes une Église qui croyons vraiment dans la guérison divine et donc dans la pratique de cette prière. En quelque part, c'est aussi lié à notre série sur les enfants qui ont la foi. En fait, je voudrais mentionner en début que donc la guérison divine et les enfants dans la Bible, c'est quand même un sujet. Dans l'Ancien Testament, par exemple, on pense au ministère du prophète Élisée dans le livre de 2 Rois. Donc, Élisée a guéri des enfants. Il y en a un, il a annoncé miraculeusement que l'enfant naîtrait et l'enfant est né. Et ce même enfant, ce garçon, est tombé malade et comme dans une sorte de coma. Et Élisée l'a ramené à la vie. Ça, c'est dans 2 Rois. J'ai mal écrit la référence, mais en tout cas, c'est dans 2 Rois. C'est un garçon qui était le fils d'une tsunamite. Et il y a aussi des enfants qui participent à la guérison. Donc, il y a des enfants qui sont guéris, en fait, parce que Dieu veut guérir les gens de tous les âges. Amen. Mais les enfants aussi, et on le voit chez Jésus, Jésus va faire comme Élisée et même plus. Puis il y a des enfants qui participent au miracle de la guérison. La semaine dernière, on a vu un enfant qui a participé à un miracle, c'était la multiplication des pains. Mais ici, encore dans le ministère d'Élisée, 2 Rois chapitre 5, une petite fille qui, l'armée syrienne avait conquis le royaume d'Israël pour un bout de temps, et ils ont pris des captifs, des otages, et dont une petite fille qui est devenue une esclave. Imaginez ça, ton pays est conquis par un autre pays, puis toi, tu es une petite fille, puis tu es prise en otage, tu deviens l'esclave d'une famille en Syrie. Et grâce à elle, son nouveau maître syrien, qui s'appelle Naaman, va être guéri. Alors, je vous lis le début de l'histoire. Le maître, il s'appelle Naaman. C'est dans 2 Rois, chapitre 5. C'est le début du chapitre 5, verset 1. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son seigneur. Alors ici, c'est seigneur avec un petit S, ça veut dire le roi de Syrie. Ce n'est pas Dieu. Naaman jouissait de cette estime du roi, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux, une maladie très grave qui peut conduire à la mort, et c'est ce qui se passait souvent, mais en plus, tu étais chassé de la société parce que c'était contagieux. Alors, Naaman, un homme important, mais qui était lépreux. Or, les Syriens avaient mené des expéditions. Ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Et cette petite fille était au service de la femme de Naaman. Et la petite fille a dit à sa maîtresse, « Si seulement mon seigneur, donc Naaman, le mari, pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Donc, elle avait entendu parler d'Élisée. Naaman alla dire à son seigneur, le roi, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Le roi de Syrie dit, « Vas-y, rends-toi à Samarie. » Et Naaman partit. Puis après ça, il y a l'histoire de la guérison. Il va rencontrer, il va être en contact avec Élisée. Mais vous voyez, cet enfant croit à la guérison, croit que Dieu utilise des serviteurs comme Élisée. Et ce qui est beau, c'est son approche simple, sans prétention. C'est quelqu'un qui vaut rien dans la société, une petite esclave qui a perdu son identité. Pourtant, elle a de la compassion, du pardon et de la foi pour la guérison de l'homme qui est devenu son propriétaire. Et grâce à elle, parce qu'elle a transmis l'information, il va être guéri. Nous voyons des choses semblables dans le ministère de Jésus, avec les gens de tous les âges, y compris les enfants. Et ceci nous ramène à notre question d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la guérison divine et la prière de guérison aujourd'hui? Et on n'a pas 3 heures ce matin. On a juste, maintenant, il reste peut-être juste 15 minutes, et je ne vais peut-être pas être capable d'être contenu dans 15 minutes, mais il faut vraiment être court. Quelle approche avoir? Et comme j'ai dit, voyons les principes bibliques, voyons des conseils pratiques. Allons droit dans le sujet, parce qu'après, je vais vous donner l'occasion de venir, qu'on puisse prier pour vous, si vous le désirez. Déjà, réfléchissez à votre requête. Ça peut être aussi pour quelqu'un d'autre. Vous pouvez venir en avant et dire, « J'aimerais prier pour telle autre personne qui n'est pas ici. » Et aussi, vous pouvez revenir, même si vous êtes venu la dernière fois. Il n'y a rien de mal à venir plusieurs fois pour demander la prière pour la même chose. Le timing de Dieu, c'est Dieu seul qui le connaît. Amen. Alors, regardons des principes bibliques. Premier principe que je veux vous dire, bien, on le voit dans l'exemple de Jésus et de ses apôtres. D'abord, il y a ce fameux passage qui est semblable à beaucoup de passages dans les évangiles. Jésus guérissait les malades. Jésus priait pour eux. Matthieu chapitre 8 dit ceci, « Le soir venu, on amena vers Jésus de nombreux démoniaques. » Ça, c'est des gens malades dans leur esprit parce qu'un démon est en train d'avoir un contrôle, une oppression sur leur âme. Dans certains cas, le démon entre corporellement dans la personne. On n'ira pas dans les détails, mais on les a amenés vers Jésus et il a chassé les esprits par sa parole et il a guéri aussi tous les malades, dit le texte. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait dit. Il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies. On va revenir sur cette prophétie. Est-ce que ça s'arrête avec Jésus? Non. Regardez les apôtres en action dans le livre des Actes. Ils sont en prière avec les premiers chrétiens de Jérusalem. Ils sont persécutés parce qu'ils sont en train d'annoncer l'Évangile. Et voici ce qu'ils prient tous ensemble. Et maintenant, Seigneur, déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Donc, wow, Jésus est encore à l'œuvre, il est ressuscité et il guérit encore dans le temps des apôtres et même jusqu'à aujourd'hui. C'est le même Jésus qui est à l'œuvre. Amen. Donc ça, c'est le premier principe. Jésus le faisait, ses apôtres aussi, prier pour les malades et croire en la puissance de Dieu. Deuxième principe, très important, Jésus a accompli une grande victoire pour nous sur la croix. Et la prophétie d'Ésaïe, écrite plusieurs centaines d'années avant que Jésus vienne, explique déjà qu'est-ce qui va être accompli par Jésus. Alors, Ésaïe dit, nous l'avons méprisé. Donc, il parle au passé, mais en fait, c'est pour la crucifixion qui va être au futur. C'est assez capotant. Nous l'avons méprisé. Nous l'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Hein? Et on voit que Matthieu se réfère à ce verset. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, une des plus merveilleuses prophéties de l'Ancien Testament. Donc, écoute-moi bien, quand Jésus est mort pour toi sur la croix et ressuscité par la suite, il a accompli une grande victoire pour toi sur plusieurs niveaux. Premièrement, la culpabilité du péché, de ton péché, il l'a pris sur lui, donc tu ne seras pas puni pour tes propres péchés si tu mets ta foi en lui. Amen. Alors, déjà là, libéré de la culpabilité du péché. Mais il y a d'autres choses par rapport au péché que Jésus a vaincu là. Il a vaincu la mort. Et ça, ça veut dire que toi, bien que tu vas mourir, et c'est relié au fait qu'on est pécheur et que tu es pécheur, mais tu vas revenir à la vie, tu as acquis la vie éternelle, la vie pour toujours, parce que Jésus est mort pour toi à la croix. Amen? OK. Et puis, il y a d'autres choses. Il y a la séparation avec Dieu à cause de la crucifixion de Christ. Tu es réconcilié, tu vis avec Dieu maintenant. Amen? Et puis, il y a même, par rapport à la question de la mort, la maladie, c'est une force de mort dans nos corps. Et on est tous en train de mourir. On va tous mourir à moins que Jésus revienne avant. Certains d'entre nous ne passeront pas par la mort physique. Mais sinon, la maladie fait partie des forces qui vont nous amener malheureusement à mourir physiquement. Donc, ça veut dire que la crucifixion de Jésus à la croix, qui nous amène la victoire sur la mort, c'est aussi une victoire sur la maladie. Amen. Ça veut dire que la maladie, oui, elle nous affecte encore, comme le péché d'ailleurs, mais c'est juste pour un temps. Et nous allons être complètement libérés de la maladie et aussi du péché. Et ça sera final quand nous allons rencontrer Jésus. Amen?
Amen.
OK. Donc, très important de comprendre qu'à la croix, toutes ces choses-là ont été acquises par la victoire de Christ pour nous. Quand on devient chrétien, la puissance de Jésus, la vie de Jésus, elle est en nous. Jésus vient vivre en nous. OK? Donc, Jésus est le premier qui a reçu le corps éternel, qui n'a pas de maladie. Mais s'il vient vivre en moi, donc je suis quand même en contact, moi, mon corps étant encore mortel, mais je suis en contact par Christ avec celui qui est libéré du péché, mais qui est aussi, dans son corps, libéré de la maladie. Alors, quand on prie pour la guérison, c'est qu'on prie que la vie de Jésus se manifeste dans mon corps. Amen? Est-ce que vous me suivez? C'est peut-être un peu compliqué, mais c'est des vraies réalités que la vie du corps de Christ, le corps parfait, éternel, qui n'est pas susceptible à la maladie, touche ma santé. Paul dit ceci, « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Amen. on avait aussi ce témoignage d'un des, ben, le fondateur principal de l'Alliance, qui lui, en fait, il avait une santé fragile et il priait pour la guérison souvent parce qu'il avait une vie tellement occupée. Il prêchait, il écrivait, il enseignait, il priait pour les malades, il envoyait des missionnaires, il levait des fonds pour les missionnaires, il créait des institutions. Et pourtant, il avait une santé fragile et il a appris vraiment à puiser dans cette vie de Christ en lui. Il a dit, j'ai dû apprendre à recevoir de lui Christ en moi, hein, Christ en lui. J'ai dû apprendre à recevoir de lui ma vie spirituelle à chaque seconde. À m'emplir de lui et à me vider de moi-même. Comme on respire, je me vide de moi-même. Je me remplis de Christ. Alors, c'est une image, mais c'est quelque chose qui est à ta disposition parce que tu es chrétienne. C'est ainsi qu'il nous faut recevoir, instant après instant, ce dont nous avons besoin, tant pour l'esprit que pour le corps. On continue. Voici un autre principe biblique. Et ça, c'est la partie un peu délicate et paradoxale, mais importante quand même pour qu'on soit mature dans notre approche à ce genre de prière. C'est que dans cette vie, la victoire sur la maladie, même miraculeuse, elle est toujours partielle. OK? Un exemple classique, c'est Lazare. Jésus l'a ressuscité des morts, mais il est quand même mort par après. Sinon, il serait ici quelque part. C'est la guérison miraculeuse que Jésus donne, peut te donner de ce côté-ci de la mort ou de son retour. Elle peut être miraculeuse, elle peut être incroyable, elle peut être puissante, elle sera toujours partielle parce que tu vas quand même mourir et tu vas quand même apparaître devant Christ et il va te donner ton nouveau corps qui, lui, va être complètement libéré de toute maladie. Et on a hâte à ça. Et c'est ça notre vraie joie. Mais ça nous permet d'avoir un peu de mesure quand on prie pour la guérison ici-bas. Paul lui-même, qui a vu des personnes être guéries par lui, par ses prières, a dit ceci. Voilà pourquoi nous, il parle de son équipe d'apôtres, nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Notre être extérieur, c'est quoi? Qu'est-ce que vous pensez?
Le corps.
Le corps. Oui. Alors, c'est deux choses en même temps. On reçoit des boosts de santé ou des guérisons miraculeuses en chemin et en même temps, on voit quand même que notre être extérieur est en train de se détruire parce qu'il faut passer par la mort comme Jésus l'a fait pour recevoir le nouveau corps. Ensuite, qu'en est-il vraiment de la guérison? C'est que Jésus veut nous donner en chemin ce dont nous avons besoin pour notre mission. OK, nous les chrétiens. Je ne parle pas des contextes d'évangélisation. Avec des gens qui sont nouvellement en contact pour la première fois avec Jésus, les évangélistes, et ça peut être toi, va prier pour un malade et Jésus va donner une guérison pour convaincre la personne qu'il est vivant, pour que la personne puisse donner sa vie. Mais les chrétiens, qui sont chrétiens depuis bien des années, peuvent aussi demander la guérison. Et c'est que Christ veut te donner, dans ton chemin de vie, ce qu'il te faut pour ta mission d'aujourd'hui. Et ça aussi, c'est important. Et là aussi, on aime se référer à notre fondateur, Albert Simpson, comme je vous dis, il avait une santé fragile. Et il a demandé, j'aimerais ça, une guérison, Seigneur, une guérison totale et absolue pour mon problème de santé que j'ai. Et en fait, il a reçu plutôt une guérison de jour en jour, ou une guérison suffisante pour chaque jour. Voici comment il relate sa prière avec Dieu. Dieu m'a dit, « Mon enfant, il faut que tu me demandes chaque souffle dont tu as besoin, car je t'aime si tendrement que je désire te voir venir à moi sans cesse. Si je te donnais une grande provision, et là, ça voudrait dire comme une guérison une fois pour toutes de son problème cardiaque, tu pourrais te passer de moi et tu viendrais à moi moins souvent. » Intéressant quand même. Alors, il allait à chaque dimanche, il demandait, « Dieu, donne-moi la force, donne-moi la santé pour passer mon dimanche. » Parce qu'eux autres, ils ne prêchaient pas juste un message le dimanche. C'était deux, trois, des visites, réunions de prière le dimanche soir. Et il avait peur d'avoir une crise cardiaque à chaque dimanche. Et Dieu l'a préservé à chaque dimanche. Mais il retournait régulièrement pour prier pour cette guérison. Et Dieu la lui donnait jour après jour. Est-ce que vous me suivez? Des fois même, le Seigneur va dire non. Voici un exemple classique qui est un exemple heureux. Ça, c'est l'apôtre Paul. Il avait un problème de santé. Il appelait ça une écharde, comme un genre de poinçon ou un clou dans la chair. C'est comme s'il est, on ne sait pas ce que c'est. Certains pensent qu'il avait un problème avec ses yeux. Ça peut être n'importe quelle sorte de problème de santé. Trois fois, il a dit, « J'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. » Parce qu'il avait un ministère exigeant. « Oh, enlève de moi cette écharde, Seigneur. » Et dans le contexte, le Seigneur lui a révélé, « Mais non, parce que je t'ai donné tellement de grâce que si en plus je te donne ça, je vois que tu vas tomber dans l'orgueil. » Et donc, il dit, « Trois fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. » Et le Seigneur m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Paul continue en disant, « Alors moi, je vais glorifier Dieu dans ma faiblesse. » Donc, il a accepté la réponse de Dieu et il a dit, « Je vais continuer mon ministère avec ce problème de santé qui... Dieu va me donner la force de le faire, même si je souffre, et je vais glorifier Dieu que Dieu utilise un outil comme moi qui a un problème de santé. » Donc, voyez que Paul recevait la force, mais cette fois-ci, il n'a pas reçu la guérison. Alors, tout ça, ça nous aide à comprendre comment prier pour notre santé et celle des autres. Donc, je vais maintenant montrer les principes. Premièrement, il y a un sixième principe biblique. Poser cette question-là. De quelle manière Dieu veut-il se glorifier? Et aussi, qu'est-ce que Dieu veut approfondir dans ma relation avec lui? OK. Conseil pratique pour la prière de guérison. Moi, je dirais, c'est ce que j'ai vu aussi dans l'Oasis et dans l'Alliance, c'est toujours bon de prier pour la guérison. Il y a des milieux chrétiens où on a peur de prier pour la guérison. Moi, je dis non. Approchons-nous du trône de la grâce. Prions. Quelqu'un veut la prière pour sa santé? Let's go. Faisons-le. Après tout, le pire, c'est qu'on se trompe. Mais le Seigneur ne va pas nous punir si on prie pour la guérison de quelqu'un. Non, prions pour la guérison. Et mettons le focus pour le chrétien sur la vie de Christ en lui, comme j'ai expliqué tantôt. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de te dire, ma sœur? Est-ce que tu sens qu'il dit, je veux te guérir, je veux te donner une nouvelle santé? Parce qu'il est, en toi et son corps touche ton corps. Ensuite, ne pas précipiter la prière. J'ai dit, c'est toujours bon de prier, mais il ne faut pas nécessairement se garrocher non plus. Ensuite, prier dans le calme et la confiance. La foi ferme n'a pas besoin de volume, je parle de décibels, ni de violence. Hein? Et souvent, plus la foi est ferme, plus on est calme et serein. Hein? Il y a même des guérisons de Jésus où il dit à la personne, « Garde, rentre chez toi, ton enfant est déjà guéri. » Dans le calme comme ça. Alors, calme, serein, et se souvenir que c'est Dieu qui guérit, pas moi, pas ma voix. OK? Par contre, on recherche la conviction. Et c'est pour ça qu'il faut y aller lentement. Des fois, quand on prie avec quelqu'un, et peut-être en groupe, une conviction peut venir du Saint-Esprit, et là, on va prier avec plus de confiance. Ensuite, toujours garder à l'esprit la souveraineté de Dieu dans la santé de la personne. Souveraineté veut dire c'est lui qui est le boss, c'est lui qui est en charge. Le plan de Dieu nous dépasse. Son timing aussi. On peut prier, mais restons dans le respect de la souveraineté de Dieu. Dieu peut utiliser... moi, je peux vous dire que j'étais un asthmatique très, très sérieux quand j'étais à l'école primaire et secondaire, et même dans la vingtaine. Moi, depuis une vingtaine d'années, je n'ai plus aucun symptôme d'asthme. Amen, c'est merveilleux. Et souvent, je suis venu dans les églises qu'on prie pour moi. Le timing de Dieu, je n'ai pas vraiment compris. Ça a pris du temps. Mais si Dieu a utilisé, avec le temps, une combinaison de prières, d'action directe de son Saint-Esprit, de médecine, de changement de style de vie peut-être, et de puissance naturelle qui était dans mon corps, et aussi d'évolution du corps. Ben moi, je dis, j'accepte, Seigneur. Donc, voyez-vous, Dieu utilise beaucoup de choses différentes pour nous guérir, et il ne faut pas trop tout miser sur la prière de ce moment, à moins d'une conviction spéciale. Respectons la souveraineté de Dieu dans la situation. N'oublie pas aussi que la prière de guérison est communautaire, comme on a dit dans les exemples. Peut-être qu'en groupe, on reçoit une conviction, et Jésus dit là où deux ou trois s'accordent pour prier quelque chose, je suis là et je vais vous l'accorder. C'est extraordinaire. Ça, c'est que c'est l'Esprit qui nous parle en communauté. Il y a aussi le fait que quelqu'un peut inviter les responsables de l'Église à aller chez lui pour prier pour sa guérison. Et finalement, on peut et on doit faire la prière de guérison dans le dialogue. Laisser la personne malade s'exprimer et lui donner l'occasion de revenir à la prière si elle le désire, si elle sent que... Mais je sens que j'ai besoin de plus. Je sens que je ne suis pas encore guéri. On doit être là pour prier avec elle une autre fois ou deux. Mais c'est bon de poser des questions à la personne avec laquelle on prie. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'on prie pour moi, j'avais une blessure, et C'était comme une genre d'arthrite et un pasteur avait prié pour moi et il a arrêté au milieu de la prière. Il m'a dit, est-ce que tu sens quelque chose dans ton corps? Et je pense que j'ai dit non. Et il a continué à prier. Et après, il m'a dit, est-ce que tu sens quelque chose? Et il dit, j'ai dit, je me sens bien dans mon cœur. Je sens que je suis excité par votre prière. Mais mon bras, pas encore. Mais quelques jours plus tard, ma douleur est partie. Et je me suis dit, gloire à Dieu. Alors, j'ai aimé le fait qu'il y avait un dialogue. Nous allons arrêter là le message. Et donc, on a vu les principes bibliques, les conseils pratiques. Maintenant, je vais inviter les musiciens à revenir. Je pense qu'on va créer un contexte de musique douce et il y aura peut-être aussi un chant. Mais je veux donner l'occasion à ceux qui aimeraient la prière, que ce soit pour un problème de santé, ça peut être autre chose, de venir en avant et on va prier pour vous. En fait, il y a des responsables qui sont prêts pour venir en avant prier avec vous. Je vais les inviter à venir maintenant.